Fréquence A, une émission proposée par Radio Boomerang 89.7 FM avec Conscience Roubaix Street, présentée par Samir, car ici se joue la culture. Bonjour amis auditrices et auditeurs de Radio Boomerang, bienvenue dans cette nouvelle émission de Fréquence Art. J'espère que vous allez bien ce dimanche un peu gris. Voilà, peut-être que vous avez un peu froid, peut-être que voilà, vous êtes de sortie. Tout d'abord, je voulais souhaiter un bon début de ramadan à tous ceux qui font le ramadan et un bon début de carême aussi à tous ceux qui pratiquent le carême. Donc voilà, c'était le petit message plus de ce matin, en ce dimanche. Et alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Abdelsami Ghennoun, Hannoun, et donc qui va nous parler aujourd'hui d'un projet autour de l'artisanat. C'est bien ça. Bienvenue Abdelsamir dans cette émission Fréquence Art. Comment ça va? Ouais, un peu enroué, un peu enrhumé, non? Ce matin, ça n'a pas été trop dur? Ouais. Ouais. Il y a quelques semaines, tu étais venu pour un autre projet. Donc voilà, on en a parlé, on a fait des événements autour de ça. Hein. Là, tu es sur un autre domaine lié à l'artisanat. Et c'est quelque chose qui tient à cœur. Tu as pu explorer ce domaine et la richesse des différents projets qui sont portés par la branche artisanale, que ce soit sur le territoire de Roubaix, de la métropole ou bien du nord de la France. Ouais. 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 Mais alors quand on pense artisanat, on pense peut-être, je sais pas, on fait des paniers en osier, on fait quoi? On fait de la gravure sur bois, on fait. Mais artisanat, c'est vaste, hein, en fait, quand ça peut être aussi artistique que technologique.
Ouais.
Et
ouais.
Ouais.
Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. C'est. Alors dans l'artisanat, il y a de l'inspiration, il y a de la création, mais c'est un but, on va dire, un peu plus commercial que l'expression artistique.
Ouais.
Ouais. Ouais, et c'est une partie aussi qui est pas négligeable, je veux dire, parce que on a beau créer, mais après, bon, voilà, si ça a pas de répercussions pour soi déjà, pour que ça puisse, faut le dire concrètement, il faut que ça nourrisse la personne, quoi. Donc, alors, Abdelsamir, on va parler un peu de toi. Tu t'es formé comment? Tu pratiques plusieurs langues. T'as été dans plusieurs pays. T'as suivi un peu quelle formation? Ouais, bah écoutez, bienvenue. Hein. Je veux dire qu'il y a des projets, des choses intéressantes où on peut échanger autour d'un sujet. Bienvenue à Radio Boomerang. Hein. Et vous, chers auditeurs, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez vous rapprocher de nous par les biais des réseaux sociaux, la page internet. Et il y a des numéros de téléphone et nous contacter, hein, que ce soit Fréquence A ou d'autres émissions. C'est l'esprit de la radio associative. Ouais.
Je suis ici en France depuis 12 ans, ça va être 12e année.
12e année, ok, d'accord.
Et donc, la première fois que je suis arrivé en France, je n'ai pas mis en place, c'était très différent au culturel aussi.
Ouais. Après, on peut le dire, hein, tu es d'origine marocaine, mais tu as vécu dans un pays européen autre que la France.
Je suis d'origine marocaine et je suis né et j'ai vécu en Italie.
Ouais, en Italie, ouais, c'est. Ouais, ouais. Et dans quelle ville d'Italie?
C'était à Alessandria, entre Turin et Milan.
D'accord, ok.
Puis Alexandrie, puis dans l'Égypte. Dans
ouais.
Pôle,
ouais, ouais.
Alexandre le Grand et sa fameuse bibliothèque qui est enseignée
là. Ouais.
Plein de plein de manuscrits. Et la deuxième, beaucoup moins connue par contre, c'est Alexandrie, toujours Alessandria en italien, entre sur un million, du coup, c'est une petite ville dans le Piémont.
Ouais. Ouais.
Je l'appelle la petite Monaco, dans le sens où c'est vraiment une petite ville, mais vraiment très, très chic, très propre, des personnes très respectueuses. Et on se connaissait partout, évidemment,
ouais.
Parce que c'est une petite ville. Et du coup, ça nous évitait aussi. Je ne vais pas vous rencontrer énormément.
Ouais. Enfin, il y a un bon esprit, une bienveillance entre les habitants. Donc voilà, tout. Et alors. L'Italie, le Piémont, entre Turin et Milan, c'est une région quand même assez prospère. C'est par rapport le nord de l'Italie, on le sait très bien, que est plus prospère et progresse plus que le sud. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller en Italie, j'ai vu un peu la différence. T'en gardes un beau souvenir de cette expérience italienne? Ouais.
Et mon adolescence, très très bon souvenir. Bon, par contre, j'ai pas eu l'occasion d'y aller encore une fois, mais j'ai envie d'y aller. J'ai vraiment été personne à remercier.
Ouais. Ça fait un moment que tu n'y as pas été ?
Ouais, ça fait 5 ans.
Ah, ok, ok. Mais tu restes un peu en contact avec tes origines italiennes, puisque avoir grandi, tu es né en Italie. Ah, donc voilà, italien, donc ouais, italo-marocain, ça fait plaisir, hein, c'est bien d'avoir ça, enfin une personne telle que toi, d'avoir une personne comme ça à Roubaix, et donc alors tu restes en contact avec tes origines italiennes,
ouais. Oui, évidemment, je regarde pas mal de
films. Ouais, en italien, ouais. Ouais.
Comme ils aiment bien rigoler. Ils sont très accueillants, ouais. Très chaleureux. En fait, leur culture, pour être franc, elle se rapproche énormément de la culture marocaine.
Ouais, ouais.
C'est très accueillant. Même s'ils n'ont pas un sou, ils vont t'accueillir, vont t'offrir à manger, prendre soin de toi, t'aider, si t'as besoin. Comme ils sont très solidaires.
Ouais.
Et alors qu'il faut pas oublier, c'est un tout petit pays, en fait. Comme vous l'avez justement dit, c'est le nord est beaucoup plus développé que le sud. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien s'ils avaient développé un programme au début des années 90 qui s'appelait Casa del Mezzogiorno. À la caisse du midi, c'est-à-dire qu'il c'était des fonds en fait qu'on envoyait du nord vers le sud,
ouais,
pour développer encore plus, même s'il est encore plus développé, mais ça reste, mais aussi ça reste un endroit magnifique.
Ouais. Et tu grandis en Italie, tu vas à l'école, et alors t'es entre ces deux cultures, du Maroc, du Maghreb, et culture italienne, quoi, en fin de compte. Et donc, tu apprends les deux langues ?
C'est ça, oui. Et, du coup, par rapport aux langues, du coup, pourquoi je parle, comment ça se fait, je parle 5
langues ? Ouais. Ah, mais j'allais y venir, justement. Non, mais c'est bien, c'est bien. Mais déjà, l'italien, tu l'as appris de naissance, en fin de compte ?
Ouais, c'est juste ça,
de
naissance.
Ouais. Et la langue arabe, alors ? Ouais.
Mais l'arabe italien, je l'ai appris grâce tout d'abord aux efforts de mes parents,
ouais.
qui ont veillé à ce que j'apprenne la langue arabe. Et aussi par rapport, en fait, c'était aussi, on va dire, deuxième fois aussi, aussi un apprentissage indirect. C'est-à-dire, à force d'avoir un père qui regarde la télé, qui regarde les infos à 24,
ouais. 27, ouais, ouais.
Surtout après le travail, tous les jours, on est assis à table et on est obligé de regarder les infos à 12 ans.
Ouais, ouais.
On n'a pas envie.
Ouais.
Ouais,
c'est bien.
Ouais,
c'est bien. Ouais. Ça, on est mieux imprégné par la langue et on l'intègre mieux dans son esprit. Et donc, parce qu'on continue à te présenter, hein, il faut qu'on te connaisse un peu ici à Roubaix. Et donc à la maison, on pratique le derija marocain, ok. Et à l'extérieur, tu parles italien. Ok. Et le français, tu viens comment Parce que tu le maîtrises excellent, en fait. Tu parles un très bon français.
Je ne savais pas. C'est pour le français que quand je suis venu ici, j'ai intégré le lycée Jean Moulin.
Ok.
J'ai fait un MacOS.
Ouais, et mais tu parlais français quand t'es arrivé?
Non.
Ah bon? Mince, et alors ça n'a pas été trop difficile?
Un peu, un choc culturel.
Ouais.
Laisser tous ses amis derrière.
Bah ouais.
Surtout que quand je suis petit, j'avais 15 ans. Et du coup, quand t'es un ado, tes choix ils sont plus
émotionnels. Ouais.
Mais
quand on arrive à Roubaix comme ça, il y a un petit changement culturel. Déjà, le climat n'est pas pareil. Les façades des maisons ne sont pas pareilles. Les comportements et les us et coutumes ne sont pas pareils. Toi, entre la culture du Maroc et italienne, c'est pas un peu difficile. Et le regard des autres peut-être peut nous perturber ou comment ça se passe? Parce que c'est intéressant de cette arrivée, ce changement culturel que tu abordes.
Oui, parce que pour être franc, c'était assez bouleversant pour un ado de 15 ans.
Ouais.
Changer de pays, de vie, de culture, d'école et d'environnement. Mais avec le temps, j'ai réussi quand même à m'y habituer, on va dire.
Et après, ici aussi, on m'a très très bien accueilli. J'ai pas eu vraiment de problème, à part le fait que je devais apprendre le français.
Ouais.
Parce que dès que je suis arrivé par rapport à mes frères et soeurs, j'ai intégré le lycée directement. Et du coup, 2 ans et demi après, je devais passer le bac en première et après le bac en terminale.
Ouais.
Et après, j'avais pris ES comme filière économique et sociale. Du coup, une des filières les plus difficiles avec S.
Ouais.
Il y a encore ce débat S, ES, qui est le meilleur. Et du coup, je devais vraiment être très très bon en français, puisque forcément, on avait des cours en français, on étudiait les textes classiques, Bovary, Léo Ferré, Madeleine. Et il fallait aussi être bon en économie, en histoire, en géographie, en maths. Et je me rappelle, ce n'était pas du tout évident, puisque je devais prendre des cours en plus de français au lycée Vandermeersch.
Ouais.
Après, repartir au lycée, rattraper mes cours, je me rappelle, c'était les cours d'histoire, je rattrapais les cours d'histoire, réviser les cours, me préparer. Et le lendemain, je devais rentrer un peu plus tôt pour faire du soutien, prendre des cours en plus en maths. Du coup, je rentrais une heure avant tout le monde. C'était une période assez intense pour un ado,
ouais.
Mais en même temps, elle a changé ma vie, en fait, professionnellement et personnellement parlant.
Ouais. Donc, tu reprends tes études, comment que ça se passe? Tu rattrapes un peu, tu prends des cours de français en même temps, c'est ça?
C'est ça, oui, c'est ça.
Et
c'est ça.
Ça va, au bout de combien de temps tu te sens à l'aise ici à Roubaix?
Niveau linguistique et culturel, on veut dire 3 mois.
Ouais.
On va dire 3 mois. Après, c'est aussi ma personnalité qui fait que ça n'a pas duré plus que ça, puisque j'aime bien aller vers les autres, découvrir. Et évidemment, entre-temps, je me suis fait des amis, surtout au début.
Ouais, donc après, ça suit son cours.
C'est ça.
Et tu te sens à l'aise au bout de combien de temps? 6 mois, un an?
Franchement, pas plus de 3 mois.
Ouais, ok.
Plus de 3 mois, ça va.
C'est bien.
Ça va.
Et alors, tu disais, tu parles 5 langues. Les langues, c'est une passion chez toi. Donc, comment tu arrives à appréhender toutes ces langues? Ça vient naturellement? Tu es prédisposé à apprendre l'italien, l'arabe, le français, l'anglais, je sais pas.
Après, l'espagnol.
L'espagnol et quoi d'autre?
Et c'est tout.
Ah ouais,
et
ok.
C'est tout.
Et ça, les langues latines quand même, ça et bon, c'était la langue anglaise bien, qui parlait un peu partout.
C'est ça.
Mais ça devient facilement d'apprendre les langues comme ça.
En fait, Dan Martel, il a écrit un excellent livre appelé Buy Back Your Time, c'est-à-dire racheter son temps. Et dans ce livre-là, il parle du fait que chacun et chacune d'entre nous a ce qu'il appelle une zone de génie.
Ouais.
C'est-à-dire chacun, en fait, il ou elle a un point fort sur lequel il faut absolument tout viser et le développer tout simplement.
Ouais.
Et moi, juste, j'ai vu que c'était le côté linguistique et oral était un de mes points forts. Du coup, j'ai essayé de le développer au fil des années via les séries, livres, entrant en contact avec des personnes qui sont beaucoup plus intelligentes que moi, qui ont beaucoup plus réussi que moi.
Ouais.
Jusqu'aujourd'hui, j'ai fait ça parce que je suis dans le bénévolat ici, dans la métropole, actif dans le bénévolat depuis une décennie.
Tu participes à... Enfin, tu as intégré pas mal d'associations.
C'est ça, oui. Depuis que j'ai 19 ans, là, j'ai 28.
Ouais.
Entre-temps, j'ai commencé par la FEV. Et là, je suis vice-président des relations publiques auprès de Toastmasters International.
D'accord.
C'est un organisme fondé aux États-Unis à la base, mais ils ont ramené le tout en France.
Ouais.
Et on aide les gens à développer leur prise de parole en public. Mmh. Et d'ailleurs, je prépare aussi mon concours, un concours d'éloquence pour pour février 2027.
Ouais, c'est ça, c'est l'éloquence. On a fait quelques émissions autour de l'éloquence. C'est quelque chose qui est important pour toi. C'est la base, quoi. Je veux dire, parce que tu es un habitué des présentations, des mises en relation, des choses comme ça. Donc, tu travailles ce domaine-là.
C'est ça, oui, c'est ça. L'éloquence, franchement, elle est très importante. Et d'ailleurs, chez Toastmasters, on est tous obligés de prendre un rôle lors de chaque session. Et des fois, je suis meneur des improvisations, c'est-à-dire je dirige en fait les différentes improvisations qu'on fait. Puisque du coup, quand une personne fait des improvisations une ou deux fois par mois, tous les ans, au fil du temps, elle devient très à l'aise à l'oral.
Ouais.
Alors qu'on parle d'improvisation, même pas du discours préparé, parce qu'il y a aussi les discours préparés des fois à faire. Et du coup, en fait, c'est juste une question de pratique. À chaque fois qu'on voit une personne qui maîtrise un certain domaine, c'est pas de la magie, c'est pas parce que c'est un génie ou autre.
Ouais, ouais.
C'est juste de la pratique qui dure depuis 5-10 ans.
Ouais.
Donc,
En fin de compte, il y a toujours une ligne directrice du discours.
C'est ça.
Et après, voilà, entre guillemets, on va broder un peu en tour en fonction de l'environnement et de l'actualité.
C'est ça.
C'est voilà la petite subtilité. C'est bien d'analyser un peu la qualité hein, qui est l'éloquence. Donc bravo à toi en tous les cas.
Merci,
c'est
merci.
Pour ce parcours, c'est sympa. On va aborder le sujet maintenant que tu t'es présenté, c'est-à-dire que l'artisanat, tu as découvert ça comment ici sur la métropole?
En fait, on est parti d'un problème, puisqu'il faut toujours partir du problème. Le problème nous mène vers le besoin, et le besoin nous mène vers l'idée tout simplement.
Ouais.
Et on a vu que les artisans ont deux problèmes majeurs. Ils n'ont ni le temps et ni les moyens de gérer une activité en ligne et les livraisons qui vont avec.
Ouais, ouais. Donc,
parce que les pauvres, ils ne peuvent pas faire les deux.
Oui, ouais, on est créateur, mais il y a tout ce qui va avec. Toute l'intendance, c'est-à-dire que surtout que maintenant, en 2026, avec la communication est super importante. Et ça, ce n'est pas évident de gérer ça.
C'est ça. Bon, en fait, leur domaine, leur champ de compétences, s'arrête à l'artisanat. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas venir en fait et leur offrir vraiment une solution adaptée à leurs besoins et faire en sorte qu'ils puissent se concentrer uniquement sur, encore une fois, leur zone de génie. Mmh. Et pour que nous, on puisse leur apporter le côté technique, technologique et aussi commercial pour fluidifier leur système et leur activité tout simplement.
Et toi, c'est un service que tu vas proposer?
On est plusieurs personnes à travailler sur ça et la solution on l'a appelée l'atelier mobile.
Ouais.
Et notre but en fait c'est créer une marketplace digitale qui permettra aux artisans locaux de vendre facilement leurs créations.
Pour nos auditeurs peut-être qu'ils savent pas, mais une marketplace digitale, ça correspond à quoi? C'est quoi? C'est un marché en fin de compte qui est sur une plateforme numérique. C'est ça.
C'est ça. Oui. D'ailleurs, très bonne question. C'est une marketplace, c'est tout simplement un site dans lequel on pourra retrouver les différentes offres des différents artisans. Et les personnes qui sont intéressées par le produit pourront tout simplement passer une commande. C'est comme Amazon, comme Prime, comme Netflix, comme Zalando, comme toutes les plateformes classiques.
Ouais.
En commerce, on appelle ça marketplace.
Ouais.
Du nom market, c'est-à-dire marché. Et place, endroit. Du coup, là, on trouve, enfin, c'est le marché en fait, dans lequel on retrouve les différents produits. Ouais. Simplement.
Et alors, l'objectif pour toi, c'est de cette marketplace, c'est de rassembler divers créateurs, divers acteurs économiques et de diffuser leurs produits.
C'est ça, oui, c'est ça. C'est juste diffuser leurs produits. En fait, c'est tout simplement leur offrir de la visibilité. Là, on est encore en phase de développement. On est en train de développer le tout. Et du coup, à la fin, je ne vais pas hésiter à laisser mon numéro de téléphone pour les personnes qui sont intéressées ou qui veulent ne serait-ce que nous laisser un feedback, nous dire ce qu'elles en pensent, qu'est-ce qu'on peut améliorer, si c'est une bonne idée ou pas. Tant que c'est des critiques constructives, nous, on est ouvert.
Et alors, le nom de la structure que tu... Que tu as créé, donc ça s'appelle
L'atelier mobile.
L'atelier mobile. Ouais,
on est encore en phase de création.
Ouais.
Du coup, on est ouvert à tous les feedbacks,
D'accord. Tous
les types de questions, de propositions, des critiques constructives
qui
vont nous permettre d'améliorer le tout pour qu'on puisse aider un maximum d'artisans.
Ouais. Ok, c'est intéressant. On va continuer à parler de tout ça juste après la pause musicale. Hein. Donc, tu nous as amené
un titre, hein, c'est Sami Youssef. Alors le titre, c'est The...
The Ashqat.
C'est perse. Hein,
c'est ça,
The Ashqat, c'est quelque chose que tu écoutes en ce moment et que tu as plaisir à nous partager.
C'est ça, oui, c'est
voilà,
ça.
Ben, on écoute ça et on se retrouve juste après. Alors vous êtes sur Radio Boomerang 89.7 FM et c'est l'émission Fréquence Art. À tout de suite.
Merci.
آنچنان مستم که دیگر خود نمیدانم، در این مستی بوم حیران و با این حال خاموشم. ندوریت بود ممکن، نه آغوش پر از مهرت، زبوی زلف مشکینت ولی هم بار مدفوشم. رخت بکشای ای ساقی که جانم در طلب باشد، بده یک جرعه زان باده برد همدم و هم هوشم. در این دیر پر از مهنت بسی سختی پذیرفتم، به این اندیشه تا روزی شراب معرفت نوشم. عمرم در این رد همچنان کوشم. رخت بکشای ای ساقی که جانم در طلب باشد، بده یک جرع ازان باده برد همدم به هم هوشم. در این دیر پر از مهنت بسی سختی پذیرفتم، به این اندیشه تا روزی شراب معرفت نوشم. همچو آتش در درون من، در این آتش همی سوزم ولی فانی و خاموشم. ز عشقت آنچنان مستم که دیگر خود نمیدانم. رخت بکشای ای ساقی که جانم در طلب باشد، بده یک جرع ازان باده برد همدم به هم هوشم. در این دیر پر از مهنت بسی سختی پذیرفتم، به این اندیشه تا روزی شراب معرفت نوشم. رخت بکشای ای ساقی که جانم در طلب باشد، بده یک جرع ازان باده برد همدم به هم هوشم. در این دیر پر از مهنت بسی سختی پذیرفتم، به این اندیشه تا روزی شراب معرفت نوشم.
Allez, on est de retour dans l'émission Fréquence Art. Et donc, c'était Sami Youssef en langue farsi. Hein. Pourquoi cette langue? C'est une nouvelle. Le perse, c'est du perse, hein, le farsi, ou c'est du farsi?
Farsi, c'est perse, mais en iranien, on appelle ça farsi.
D'accord, ok.
Quand un iranien dit je parle perse, en Iran, on dit farsi.
Ouais.
Et parce que c'est une langue que j'apprécie énormément. Et même leur façon de parler, c'est juste, par exemple, leur façon de dire bonjour, ça ressemble, il y a certains mots qui se rapprochent beaucoup de l'arabe. Et d'ailleurs, ouais. J'ai aussi un fait à partager qui va surprendre beaucoup de personnes au niveau langue. Et par exemple, leur façon de dire bonjour en arabe, nous on dit sabah al khair.
Ouais.
Et eux, en Iran, ils disent sobah khair.
Ouais, ouais.
Sobah khair.
Ouais, ouais.
Et bon après-midi, ils disent asr khair.
Ouais, ouais.
Et asr en arabe aussi, c'est ouais, à peu près ouais, la même chose. Ouais, et du coup, vraiment, on trouve ces.
C'est proche, en fait. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc, ils ont leur mots propres et leur vocabulaire, c'est leur c'est grammaire ça. Et tout ça, mais ils ont. Culturellement, il y a eu tellement d'échanges qu'elles se sont un peu embriquées les langues à un certain niveau. Quoi.
C'est ça, en effet.
Donc, et alors, on va reparler de l'artisanat. Toi, les métiers de l'artisanat, tu les as découverts comment ? C'est par des connaissances ou au début, tu te disais, tiens, quand tu voyais un objet, une création, tu te disais, tiens, comment ça peut être réalisé ? Mm-hmm. Comment ça peut être fait ? Comment ça s'est passé ?
En fait, c'est mon père en fait, qui m'a inculqué cette passion liée à l'art, puisqu'il fait il est artiste et poète.
Oui, du coup, on le salue bien d'ailleurs. Hein.
Pardon ?
On le salue bien.
Ah, merci beaucoup, ouais. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, du coup, j'ai pu baigner dans ça depuis que je suis enfant.
Ouais.
Et j'ai vu à quel point c'est. En fait, je trouve que c'est juste magique de voir comment une simple idée qui commence dans notre cerveau, on peut la concrétiser dans le monde réel. Ouais. Et vraiment la rendre visible à tout le monde. C'est-à-dire, on rend en fait nos pensées, nos envies, nos désirs, nos besoins visibles aux yeux de tout le monde. Mmh. Et c'est pour ça que j'aime bien parler de création artistique et pas de réalisation artistique.
Ouais, ouais.
Parce que c'est, ça permet de voir que la personne, vraiment, l'objet d'art qu'on a devant nous, c'est vraiment l'image claire et nette de ce que la personne pense, tout simplement. Ouais.
Et alors, tu disais que toi, tu as grandi parce que ayant un papa artiste, et ça t'a un peu, je veux dire, tu as attrapé une sensibilité vis-à-vis de ça.
C'est ça, oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est aussi grâce à lui, si j'ai aussi le côté artistique, j'arrive à bien dessiner.
Ouais.
Enfin, pas autant que lui, évidemment.
Ouais.
Mais franchement, et en plus, je trouve que c'est aussi une activité de détente parfaite. Quand on est stressé, on a des problèmes ou juste oublier tout le monde, et on met une petite musique tranquille comme The Ashkat, celle qu'on a écoutée aujourd'hui,
ouais.
Et on se met tout simplement à libérer notre esprit et laisser notre main nous guider sur la feuille et réaliser en fait de belles choses qui sont évidemment artistiques.
Mmh. Et alors, on revient sur ton projet. Alors, ton intention, c'est de mettre en relation différents acteurs, on va dire artistiques, parce que l'artisanat est aussi un art, hein, je veux dire, mais je veux dire, c'est un côté plus professionnel, parce que j'ai pu regarder dans la définition de l'artisanat. Il y a tout ce qui est profession menuisier, boulanger, boucher, brasseur, cuisinier. Tout ça, c'est de l'art de tous les jours, en fin de compte. On peut extrapoler et dire que l'art englobe pas mal de choses, mais... mettre comme ça en avant des gens qui puissent créer en fin de compte des bonnes choses, des jolies choses, c'est quelque chose qui te tient à cœur.
C'est ça, oui, c'est ça. Ça fait plaisir de voir que, surtout de nos jours, tout le monde est... Enfin, pas tout le monde. Beaucoup de personnes sont très centrées sur l'argent, sur tout ce qui est matériel. Et je vois que l'artisanat, en fait, c'est... Certes, le but, c'est faire du chiffre, mais ce qui est bien, c'est qu'on fait du chiffre via des réalisations artistiques, via aussi des réalisations qui... Parce que la cuisine aussi, c'est de l'art.
Ouais.
Donc, c'est pas pour rien s'il y a des prix, s'il y a des masterclass, s'il y a des cours qui durent des dizaines d'heures sur juste comment préparer un certain gâteau.
Ouais.
Et c'est juste une réalisation, une création artistique, mais sous différents thèmes, sous différents ingrédients aussi, et sur différentes compétences. Et ça fait plaisir de voir que tout ça peut être que tout ça est réalisable.
Ouais. Et alors, ce projet, il en est où là maintenant? Tu disais tout à l'heure qu'il était soumis à des personnes
pour juger un peu s'il était plausible, quoi. Je veux dire, c'est comment que ça se passe.
Là, on est encore en phase de lancement.
Ouais.
Et encore en mode, même pas start-up, puisqu'il n'y a pas encore de levée de fonds. Mais on est encore en phase de lancement. C'est pour ça qu'on est très ouvert au feedback, puisque ça va nous faciliter la tâche et ça va aussi nous permettre d'améliorer la qualité du service qu'on propose. Mmh. Et ça, c'est très important, puisque notre service, il est axé centré utilisateur et user-centered service, comme le dirait en termes techniques. Et voilà, tout simplement, une fois que le tout sera validé et lancé, on pourra lancer la marketplace et inviter les premiers artisans à partager leur création et voir comment on peut travailler ensemble.
Et par rapport à ça, par exemple, quand tu contactes des artisans ou d'autres personnes et tu leur parles de marketplace et de l'outil numérique, comment ils appréhendent ça? Ils sont ils connaissent ou ils ont comment dire des questions ou bien ils ont des doutes sur son utilité, parce que enfin voilà, ils disent que peut-être les choses ont changé maintenant. On est en 2026 et les réseaux prennent beaucoup d'importance.
C'est justement pour ça qu'ils ont tendance à être intéressés. Puisqu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Covid n'était pas juste une pandémie, mais c'était aussi un changement du mode de travail.
Ouais.
C'est-à-dire aujourd'hui, notre façon de travailler ne sera plus jamais la même.
Tu sens qu'il y a eu un basculement à partir de cette période-là.
Énorme. C'est ça. D'ailleurs, énorme même. Et d'ailleurs, même Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, il avait, lors d'une conférence il y a quelques années, il avait parlé du fait comme quoi l'immobilier résidentiel est en train d'exploser et l'immobilier commercial, il est en train de descendre bien comme il faut.
Ouais.
Puisque les personnes se rendent compte qu'on n'a plus vraiment besoin de bureaux comme avant. C'est-à-dire on se rend compte qu'on n'a pas besoin de faire une heure de route pour travailler sur PC. On peut travailler à partir de chez nous. C'est plus pratique, plus confortable et on est plus à l'aise. Et ça va aussi éviter aussi aux entreprises de payer des loyers énormes juste pour accueillir 10 salariés qui vont travailler sur PC de toute façon. Autant les faire travailler chez eux, ça va nous économiser des coûts et ça va leur économiser le trajet, tout le casse-tête qui va avec.
Et donc, tu sens qu'il y a un basculement dans ce sens-là?
C'est ça. Déjà, aujourd'hui, on le voit. Pour la première fois, moi, en tout cas, personnellement, je ne sais pas ce que vous avez remarqué, mais moi, personnellement, je n'ai jamais vu autant de personnes parler de télétravail qu'aujourd'hui. Avant, c'était rarement on entendait parler de télétravail. Là, aujourd'hui, presque la moitié des personnes à laquelle j'ai parlé ne serait-ce qu'un ou deux jours de télétravail. Quand on est malade aussi, on fait du télétravail. Avant, ce n'était pas vraiment le cas. Avant, on ne pouvait pas trop faire confiance aux gens. Mais le Covid, en fait, certes, c'était une pandémie. Certes, c'était juste vraiment une tragédie. Humainement parlant.
Ouais.
Mais d'un côté, ça nous a aussi ouvert les yeux sur d'autres opportunités. Quand les entreprises ont vu que via le Covid, elles étaient forcées de faire travailler les personnes chez elles, et elles ont vu qu'elles ont bien travaillé, et du coup, elles se sont dit pourquoi pas garder ce mode de travail. Puisqu'on a vu qu'on leur a fait confiance, et ils ont bien travaillé, les résultats sont bien présents, donc pourquoi pas garder ce mode de travail, puisqu'il est efficace. Ça nous permet encore une fois d'économiser des coûts. Donc voilà, simplement.
Ouais. Et en fin de compte, ça rapproche un peu le métier de manager et de comment dire manager d'entreprise en fin de compte, parce que tu stimules un secteur économique qu'est l'artisanat. C'est pour changer en fin de compte la dimension de l'artisanat, c'est-à-dire qu'il soit plus il perd un peu de sa qualité physique et il bascule vers une qualité numérique.
C'est ça. En fait, le numérique aujourd'hui, vraiment, il y a un chiffre qui avait été publié par l'université américaine qui montrait comme quoi le domaine du e-learning, e-learning, c'est l'éducation mais en ligne, ça veut dire qu'on prend des cours en ligne. L'e-learning, il va atteindre sa part de marché, en tout cas, elle va atteindre plus de 1,5 milliard d'ici 2030.
Ouais.
Et ce qui est juste énorme, puisqu'encore une fois, il faut suivre les tendances, mais qui sont evergreen, c'est-à-dire qui vont durer dans longtemps. Et on aura toujours besoin d'artisans, on a toujours besoin d'enseignants, on aura toujours besoin de médecins. D'ailleurs, même les médecins aujourd'hui, ils font du télétravail, téléconsultation, ils appellent ça.
D'accord.
Donc,
c'est-à-dire on ne bouge plus de chez soi, quoi.
C'est ça. Vraiment, tout a été digitalisé. Ça va permettre aussi aux artisans qui n'ont pas les moyens de louer un local, de par exemple travailler à partir de chez eux ou un garage.
Ouais.
Mais il y a un site bien fait, professionnel, qui va leur permettre de proposer leurs solutions. et le client pourra passer la commande et tu seras pris en charge. Du coup, ils pourront se focaliser uniquement et seulement sur leur domaine de compétences, leur champ de compétences, soit créer des produits artisanaux.
Ouais, c'est le domaine où tu penses qu'il y a des perspectives d'avenir. En fin de compte, c'est là où on va. C'est assez enrichissant. J'espère que ça va, des projets comme ça vont aboutir. Alors je te propose qu'on fasse une deuxième pause musicale. On va écouter Indila, dernière danse. Voilà. On se retrouve juste après. Hein. Vous êtes sur Radio Boomerang 89.7 FM, émission Fréquence Art. À tout de suite. Oh.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence.
C'était Indila, dernière danse. Donc Samir Hanoun, voilà. Donc le projet commence à être lancé. Donc les choses sont faites. Et alors, si on veut te contacter, comment on peut faire? C'est par quel biais? Tu es sur les réseaux sociaux? Numéro de téléphone?
On peut me joindre directement via le 06 44 79 76 67 ou bien aussi via LinkedIn, donc Abdessamay Hanoun, ABE2S, AMIE, Hanoune, HANOUNE.
Ouais.
Et je suis très actif sur les réseaux, enfin, en tout cas, j'essaye.
Ouais.
Et mais sinon, on peut avec plaisir me joindre directement. Je reste ouvert aux différentes propositions, critiques constructives, idées, feedback. Et même il y a aussi au passage de la radio, pourquoi pas.
Ouais.
J'aime bien recevoir du feedback quand je peux. C'est comme ça qu'on apprend.
Ouais,
il n'y a absolument rien de. Il n'y a, pas de quoi avoir honte.
Ouais, ouais.
Et voilà, tout simplement.
Bah, écoute, on te recevra avec grand plaisir hein, pour les futurs projets qui peuvent déjà t'intéresser, toi et d'autres personnes. Merci d'être venu dans cette émission Fréquence Art un peu spéciale.
Merci.
Voilà, donc merci Abdessamir Hanoune d'être venu dans cette émission. Et bah, on se retrouve très bientôt pour une émission Fréquence Art. Voilà, merci, à la semaine prochaine, au revoir.
Merci, merci, au revoir.
Fréquence Art, une émission proposée par Radio Boomerang 89.7 FM avec Conscience Roubaix Street, présentée par Samir, car ici se joue la culture.